Qui est-ce qui est retraité ici? Voilà. Ok, est-ce qu'il y a dans cette église des retraités non pratiquants? C'est-à-dire des retraités qui pensaient qu'à la retraite, ils s'arrêteraient et qui, au final, c'est presque pire qu'avant. Je suis issu d'une famille de 8 enfants et mes parents sont à la retraite, en tout cas officiellement. Mais je crois que je ne les ai jamais vus autant occupés que ces dernières années avec les enfants, les petits-enfants. Mes parents ont 22 petits-enfants et c'est du sport. J'ai l'impression que la retraite, je ne sais pas si on la vit vraiment. Et puis parfois, pour d'autres personnes, la retraite, c'est un moment qui est compliqué parce qu'on ne sait pas gérer ce temps qui nous reste, où on était très occupé. Je discutais récemment avec une dame qui me disait, tu sais, Pierre-Samuel, c'était dur pour moi parce que j'étais une personne très active et je n'ai pas eu le choix d'aller à la retraite. Et aujourd'hui, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Et en fait, la gestion du temps est quelque chose de très compliqué. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et le titre de mon message, c'est « Vivement la retraite », c'est plutôt pour se dire, est-ce que la retraite est une question de temps ou une question de cœur ?
Descends en ce lieu parmi nous.
Parce que la réalité, c'est qu'on va toujours être plus occupé. On aura toujours des activités, on aura toujours des choses à faire. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de cœur. Et j'aimerais vous parler de deux personnages que vous connaissez très très bien, j'en suis sûr, parce que vous avez lu votre Bible régulièrement. J'aimerais vous parler de Marthe et donc de Marie. Vous connaissez cette histoire, hein ? On la lit ensemble, si vous avez vos Bibles, je vous invite à lire dans Luc au chapitre 10 et au verset 38. Luc au chapitre 10, verset 38, je vais prendre la version Summer, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelques mots qui sont différents, mais ça ressemble de très près. Luc chapitre 10, verset 38. Et on ira jusqu'au verset 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Jusque-là, tout semble bien. Sauf que Marthe, ça ne lui plaît pas. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider !» Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Je pense que vous avez déjà entendu plein de messages sur ce texte-là. Et parfois, on a tendance à lire ce texte en disant « Marthe a tout faux et Marie a tout bon ». Mais on va voir que ce n'est pas si tranché que ça. On va voir que ce n'est pas si binaire que ça. Ce n'est pas Marthe qui a tout faux et Marie qui a tout raison. On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le fonctionnement de Marthe, pourquoi elle réagit comme ça et comment nous, on est parfois à bien des égards comme Marthe. Et comment Marie réagit pour nous donner un exemple. Mais j'aimerais juste vous dire que parfois nous sommes Marthe et parfois nous sommes Marie. On n'est pas tout le temps des Marthes et on n'est pas tout le temps des Maries. Et c'est des saisons de vie dans lesquelles nous passons tous. J'aimerais m'adresser ce matin à toutes ces personnes âgées qui, dans leur période de retraite, disent « Je suis fatiguée, j'ai envie de m'arrêter ». J'aimerais m'adresser à toutes ces mamans, et je pense à tous ceux qui, ces mamans au foyer qui servent, qui prennent du temps pour leur famille, qui prennent du temps pour leurs enfants, et qui sont fatigués. À ce chef d'entreprise qui donne du temps et du temps et du temps. À ce chrétien qui est engagé tous les dimanches pour servir et pour bénir l'Église. Mais aussi à cette personne qui est seule et qui souhaite combler son vide intérieur parce que c'est compliqué la solitude. À tous ceux qui sont blessés parce qu'il y a un manque de reconnaissance à l'intérieur, parce qu'on ne m'a pas donné la place qui était la mienne, parce que je ne me sens pas à l'aise. L'histoire de Marthe et Marie, elle s'adresse à nous tous. Et j'aimerais qu'on parle de ça ce matin. Vous êtes OK avec moi ? On est tous un peu une Marthe. Vous savez que la France, c'est considéré comme le pays le numéro 3 des pays où il y a le plus d'inquiétude et d'angoisse par rapport au travail. On est les troisièmes. Si vous rajoutez ça à un contexte de guerre ambiant, qui c'est qui regarde les infos ? On n'a pas trop envie en ce moment. Hein. Si tant est qu'il y ait des moments qu'on ait envie de regarder les infos. Plus les injonctions des uns et des autres qui nous disent « tu devrais être comme ci, tu devrais être ceci, tu es un bon chrétien si tu fais ci, tu es une bonne chrétienne si tu fais ça ». Toutes ces injections, tout ça, c'est fatigant. Alors on va étudier la vie de Marthe et Marie et on va essayer de comprendre. Mon premier point est celui-ci, parfois nous sommes très près de ce qu'on appelle le burn-out. Est-ce que vous savez ce que c'est que le burn-out ? Alors, c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser, c'est un mot anglophone, anglais. Et burn-out, c'est juste quand on arrive au bout du bout du bout. Quand tu es au bout de ta vie, comme les jeunes nous disent. Quand j'en peux plus, quand je suis fatigué, quand les relations m'épuisent, quand j'y arrive plus. Eh bien, Marthe, elle en est là. Et est-ce qu'on peut blâmer Marthe un instant pour ce qu'elle fait ? Ben, la réalité, c'est que non. Pourquoi ? Parce que Marthe, elle fait ce qui est bon et nécessaire à ce moment-là. Pourquoi ? Marthe, dans la tradition de l'époque, sa mission première, c'est d'accueillir. Et si elle accueille mal, elle est mal vue. Ça fait partie de sa mission, ça fait partie de ses objectifs, ça fait partie de sa mission de vie d'accueillir correctement. Elle est dévouée, elle n'est pas en train de faire quelque chose d'inutile, Marthe, parce qu'il y a du monde dans la maison. Vous savez ce qui se passe quand on accueille du monde à la maison. On prépare, on met les petits plats dans les grands, on organise tout ce qu'il faut, et ça prend du temps. Et si tu accueilles mal, tu es mal vu. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Marthe, elle fait ce qui est bon. Et parfois, on se dit, si j'avais pas ça à faire, ça irait mieux. Mais je crois que le plus grand danger dans lequel on peut vite tomber, et on va voir ça au fur et à mesure, c'est que, à force de faire, on oublie certaines choses. Et ce n'est pas parce que c'est les choses qui sont mauvaises en soi, c'est l'attitude de cœur qui nous bloque quand on est en train de faire les choses. D'ailleurs, vous savez bien que l'ennemi, s'il n'arrive pas à t'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te pousser. Combien de pasteurs ? Et je sais, je l'ai vécu. On fait plein de choses dans tous les sens. Et on fait tellement plein de choses qu'à un moment, on n'arrive plus à se poser aux pieds de Dieu. Et je vais être transparent, je vous parle avec mon cœur. On a beaucoup de choses à faire. Mais notre mission principale, c'est d'entendre le cœur de Dieu. Et on est tous là, on a plein de choses à faire. Et finalement, Marthe, elle fait des choses qui sont, ok, utiles, mais qui finissent par l'amener vers deux attitudes qu'on va voir ensemble. Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le point de bascule, c'est là, c'est quand Jésus va dire que, Marthe, c'est pas le problème du service, c'est quand tu es centré plus sur le service que sur la personne qu'il faut servir. Quand tu es centré plus sur les actions, sur le faire, plus que sur l'être. Parfois, on est tellement actif, on est tellement dans l'activité qu'on a presque oublié le sens de notre vie. Et on devient vide. Je vous partage mon expérience. Je suis passé par une saison dans ma vie où j'étais engagé au niveau de la jeunesse, au niveau des ados, au niveau de la musique, au niveau de ceci, au niveau de cela. J'étais tellement engagé partout que j'étais engagé nulle part. Parce que dans mon cœur, je faisais tout à moitié au lieu de faire les choses bien. Et je passais par cette saison où je dis, Seigneur, je suis fatigué. J'en ai assez. Et même quand il fallait aller enseigner et partager la parole, au fond de mon cœur, je suis transparent avec vous, hein, au fond de mon cœur, j'avais du mal. J'avais l'impression de faire, j'avais l'impression de ne pas être celui que je devais être. Je faisais. Pourquoi ? Bien souvent, pour gagner l'approbation des autres. Bien souvent pour que le regard de l'autre puisse m'amener, moi, à être mieux. Et Jésus va interpeller sur deux aspects, l'inquiétude et l'agitation. L'inquiétude, c'est quoi ? L'inquiétude, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'agitation, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur. Et je trouve assez intéressant que Jésus nous connaît tellement bien qu'il sait exactement ce qu'il nous parle. On a des saisons où l'inquiétude prend plus de place que bien des choses, n'est-ce pas ? Et de là, ça va provoquer de l'agitation. On va dans tous les sens, on essaie de trouver des solutions, on se bouge à gauche, à droite. L'inquiétude, elle est là à l'intérieur, elle se traduit à l'extérieur. Mais vous savez, je pense qu'un des plus grands dangers, et le burn-out nous guette justement, quand notre service devient plus important que celui qui nous donne les forces pour le service. Quelqu'un a dit, le perfectionnisme, c'est quand le résultat est plus important que les relations. Le perfectionnement, c'est quand les relations sont plus importantes que le résultat. Je la redis parce qu'il faut qu'on essaie de se la mettre dans la tête ensemble, hein. Le perfectionnisme, c'est quand on veut que tout soit bien fait. Et parfois, c'est bon. C'est quand le résultat est plus important que la relation. Par contre, le perfectionnement, le fait de grandir de plus en plus, c'est quand les relations sont plus importants que le résultat, que ce qui va arriver au bout. Comprenez ensemble, ce qui se passe avec Marthe, c'est qu'elle a mis finalement le résultat, le fait d'avoir un service parfait, plus important que la relation. Et en fait, entre nous, on est souvent comme ça, dans tout ce qu'on vit. Il peut arriver qu'on serve dans l'église, on bénisse l'église, et puis à un moment, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent, et ça ne se passe pas comme nous, on a prévu. Bon, ça ne doit pas arriver ici, mais ça peut arriver dans certaines églises. Et elles se ressemblent toutes, je suis assez d'accord. Et du coup, on est tellement bloqué dans ce que nous, on pense qui est bon, qu'on en oublie la relation. Quand tu es même dans une relation avec quelqu'un, dans une relation d'amitié, et puis que la personne ne fait pas ce que toi, tu as envie de faire. Le résultat devient plus important que la relation. Il faut que j'arrive à ce que moi, je vais arriver. J'ai discuté récemment avec une personne qui me partageait qu'elle avait commencé à créer une relation d'amitié très forte avec une autre personne. Tellement forte que la personne commençait à avoir de l'emprise sur elle. Et elle dit à la fin, j'arrive plus quoi. Elle me dit ce que je dois faire, elle me dit ce que je dois penser, elle me dit ce que... Et la personne me partageait, me dit, mais PS, alors Pierre Samuel, et les gens m'appellent PS, comme ça, ça va plus vite. Il me dit, PS, comment je fais à ce moment-là? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des relations qui peuvent devenir toxiques. Pourquoi? Parce que le résultat est plus important que la relation. Et c'est là où Jésus va venir nous chercher. Pour Jésus, le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est la relation. On n'est pas là dans une église pour avoir une religion, on est là pour avoir une relation avec Jésus. C'est ça qui nous importe, c'est la relation qu'on va avoir avec le Père, cette relation d'amour qu'on va avoir avec le Père. Ma question, qui j'aimerais qu'on puisse se poser les uns les autres, dans ta vie, dans ton quotidien, qu'est-ce qui est le plus important? Le résultat? Que les choses soient vraiment bien faites absolument? Dans tout, dans tout ce que tu vis? Ou la relation? La relation avec Dieu, la relation avec les amis, la relation avec l'Église? Et bien des conflits, je crois, seraient évités si on mettait la relation avant les résultats. Qu'est-ce qui va se passer? Marthe va commencer à devenir aigrie. Petite pensée à mon fils, là-bas, parce qu'il utilise toujours ce mot aigrie. Elle va commencer à en vouloir à Jésus. Jésus, maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? J'imagine juste l'intonation qu'il devait y avoir à ce moment-là. Ça devait être glacial dans la salle. Tout le monde se tait, on n'entend plus que Marthe. Elle en veut à Jésus parce que Jésus n'a pas l'air de comprendre ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'en vouloir à Dieu quand je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Soyons transparents, soyons authentiques, les amis. Et ce qui s'en dégage, c'est qu'une seule chose, de l'amertume. L'amertume, c'est cette mauvaise odeur, ce qui traîne au fond de notre cœur. Si Jésus m'aimait vraiment, il ne réagirait pas comme ça. Et puis, de l'amertume va glisser vers quelque chose qui, je crois, est très dangereux. Ça s'appelle la comparaison. Il y a une comparaison entre Marthe et Marie. Marthe semble tout faire, Marie rien. Et encore une fois, c'est moi qui me tape tout à nettoyer. Comme d'habitude, c'est toujours moi qui dois faire. Et on commence à mépriser l'autre. On commence à dénigrer l'autre. Et au fond de notre cœur, qu'est-ce qui reste? De la tristesse, de la solitude, de l'amertume. Quelqu'un a dit, la comparaison te donne l'impression d'être soit supérieur, soit inférieur, mais aucune des deux n'honore Dieu. Et c'est le quotidien de beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans les églises. Avec mon épouse, on a commencé dans l'église de Reims. Vous voyez où c'est Reims? Dans l'Est? Par là-bas, dans le Nord. Plus là-bas. Dans l'Est, on était à Reims. Après, on a été dans la Meuse. Alors la Meuse, c'est encore plus perdu que Reims. C'est un endroit où on ne sait pas trop où c'est. Il faut mettre le GPS pour s'y retrouver. Et après, on était à Besançon. Et après, à Strasbourg. Et puis là, maintenant, on arrive dans la région lyonnaise. On a passé la frontière, on va dans le sud. Ça y est, nous, on est au sud, là, en dessous. Et c'était intéressant de voir que dans toutes les églises, et tu le disais à juste titre, hein, on retrouve des gens qui sont fatigués, aigris, amers par rapport au service, par rapport à leur engagement, par rapport même à des relations avec les enfants. Pourquoi? Simplement parce qu'au bout d'un moment, la fatigue a pris place, l'amertume, la comparaison, les difficultés de la vie, et fait qu'au bout d'un moment, on est comme Marthe. On en a marre et on en veut à tout le monde. Et si on s'arrête là, c'est bien triste. Mais je crois qu'il y a une solution. Amen. Je crois qu'il y a une possibilité. Je crois qu'il y a quelque chose à vivre ce matin pour quelqu'un ici ce matin. Je crois que tu as quelque chose à vivre pour entrer pleinement dans la retraite, dans le repos divin que Dieu nous permet de vivre. Amen. Ma deuxième partie, c'est que Jésus te connaît dans ta réalité. Ma première partie, c'était l'histoire du burn-out. Ma deuxième partie, c'est Jésus te connaît qui tu es, connaît ta vie, connaît dans ta réalité. Comment il appelle Marthe ? Ben, il l'appelle par son prénom. Pourtant, dans d'autres textes, Jésus va appeler des personnes femmes. Des fois, on n'a pas forcément le prénom. Là, il appelle bien Marthe. Il appelle par son prénom. Il la connaît. Et ça paraît peut-être basique comme point, mais je crois que Dieu te connaît en tant qu'individu et non pas en tant qu'un chrétien lambda. Jésus te connaît par ton prénom. Jésus connaît ce qui est important pour toi. Jésus connaît les priorités que tu as mis dans ta vie. Jésus les connaît et Jésus te connaît dans chaque détail de ta vie. Jésus connaît ton passé comme personne. Et Jésus connaît ton avenir comme personne. Jésus te connaît dans chaque détail de ta vie. Jésus connaît toutes les blessures qui t'ont amené à vivre ça. De la même façon qu'il connaît Marthe très très bien. Et il va aller plus loin. Il va même considérer Marthe dans son travail. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il a bien compris qu'il y avait du boulot. Hein. Jésus n'est pas en train de dire, hey, arrête de t'inquiéter, c'est bon, ça va aller. Vous avez souvent des amis comme ça, des gens, oh, t'inquiète, ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller, tu vois bien tout ce que j'ai à faire, ça ne va pas aller. C'est parce que Jésus n'est pas en train de minimiser, il est en train de prioriser. Il n'est pas en train de dire ce qu'elle fait, c'est mal. Il est juste en train de dire, on va changer de lunettes spirituelles. C'est ça que Jésus est en train de faire. Et on a tous besoin à un moment de dire, ok, celles-ci, elles ne me vont plus trop. Donne-moi les lunettes divines pour voir ma situation comme toi, tu la vois. Amen. J'aime comme Jésus prend soin de Marthe autant que Marie à ce moment-là. Et Jésus va lui dire, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Et c'est intéressant de voir que le mot nécessaire, dans d'autres traductions, on a aussi le mot besoin. C'est des mots qui vont être similaires. Et je crois qu'il faut qu'on fasse la différence entre ce qui est nécessaire et ce dont nous avons besoin. Jésus nous dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Nous avons besoin de Jésus. Il y a des choses qui sont nécessaires, puis il y a des choses dont nous avons besoin. Eh bien, je crois que nous avons besoin d'une relation établie avec Dieu. On ne pourra jamais combler nos besoins par l'ensemble de ce qu'on fait, aussi important et nécessaire que ce soit. Mais quand on choisit la relation, quand on choisit le cœur de Jésus, il sait que c'est ce que nous avons besoin. Parfois, Dieu met des stops. Je sais pas, je crois que j'ai à cœur de vous partager ça là maintenant. Parfois, Dieu met des stops dans ta vie. Et tu ne sais pas pourquoi. Et tu te dis, pourquoi Dieu m'a arrêté là maintenant ? Si Dieu est en train de mettre un stop dans ta vie maintenant, c'est parce que tu as besoin de t'arrêter. Tu as besoin de retrouver le cœur du Père. Ne t'inquiète pas du stop qui est là maintenant dans ta vie. Ne t'inquiète pas de cette barrière que toi tu interprètes comme étant une barrière. Dieu est en train d'arrêter là maintenant parce qu'il sait que tu as besoin de lui et il va ouvrir une porte qui va te surprendre, qui sera celle que lui a prévue. Ne t'inquiète pas, cette parole est forte sur mon cœur là maintenant. Ne t'inquiète pas du stop que Dieu est en train de mettre sur ta vie. Parce que Dieu sait par où tu es en train de passer. Quelle est la bonne part finalement ? On l'a bien vu finalement. La chose qui soit vraiment nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Marie aurait peut-être compris que Marthe n'aurait pas forcément compris ? Est-ce que la retraite, le repos, c'est possible aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut prendre soin de nos familles, être affairé à différentes choses ? Tout en étant au repos à l'intérieur. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie centrée sur Dieu au quotidien ? Est-ce que Dieu peut être avec nous dans notre quotidien ? Je crois que oui. Je me rappelle, j'étais il n'y a pas longtemps en convention à Montluçon. Là, on se retrouve avec l'ensemble des pasteurs. Et puis, je suis dans le hall d'accueil, on est en train de discuter. Et là, il y a un vieux pasteur qui vient me voir. Moi, j'aime bien parler avec nos vieux pasteurs. Parce que tu sais qu'ils vont t'apporter quelque chose. Alors, il me dit, et je vous promets, on ne se connaît pas comme ça, il me dit, bonjour frère. Puis, vous savez, il a une voix vraiment, les bons vieux pasteurs pentecôtistes. Et il arrive comme ça, il me dit, comment va ton ministère ? Tu es là, tu te dis, bon, ok. Et je sais pas, je me sens de parler, voilà, de partager avec lui, et on commence à discuter. Et je lui dis, tu sais, enfin, non, vous savez, pardon, parce que je vous vois surtout. Et vous savez, j'ai jamais l'impression d'en faire assez pour Dieu. J'ai jamais l'impression de passer assez de temps avec Dieu. J'ai l'impression de souvent d'être Marthe. Je lui dis comme ça, hein, j'ai souvent l'impression d'être Marthe et je voudrais être plus Marie. Et là, il me dit quelque chose qui m'a bouleversé, qui est d'une simplicité extraordinaire, mais qui m'a bouleversé. Il m'a dit, tu sais, frère, tu as plus que Marie. Marie était assise à côté de Jésus. Toi, tu as Jésus qui vit en toi. Mais je la connais, cette parole. Je la prêche même. Sauf que là, elle est venue percuter mon cœur. J'ai compris que je n'avais pas à faire pour obtenir. J'ai juste à être pour obtenir. C'est pas parce que je vais venir tous les dimanches, il faut venir à l'église, c'est bien. C'est pas parce que je vais venir tous les dimanches à l'église que je vais avoir une meilleure relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu dépend de mon être, pas de mon faire. Dès le début, quand Dieu amène Adam et Ève à être sur la terre, c'est pour quoi ? C'est pour créer une relation avec eux. Et bien souvent dans nos églises, on a mis le faire avant l'être. Et bien ce matin, on va mettre l'être avant le faire. On va mettre les relations avant le faire. On va découvrir le cœur de Jésus. On va, et c'est possible parce que Jésus nous attend. Toi et moi, il nous attend. Et je veux te le dire, tu n'as pas été trop loin que Jésus ne puisse te récupérer. Qu'est-ce que fait Marie ? Elle fait quelque chose que j'aime. Elle arrive et elle s'assoit. Hop ! Parce que quand tu es assis, bah tu ne peux pas faire grand-chose d'autre à part être assis. C'est vrai ? Puis je trouve aussi que quand tu es assis, tu as une position d'humilité. Tu es obligé de te mettre à côté d'eux, tu es obligé de te poser. Quand tu t'assois, tu n'as pas le choix. Tu t'arrêtes. J'aime quand on s'assoit. Marie, elle va s'asseoir et puis elle va écouter. Alors, ça veut dire que Marie est une feignante ? Certainement pas, parce que si vous regardez les autres occurrences où Marie intervient, elle fait d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec... Non, Marie priorise. Elle ose s'accorder une pause. Je dis souvent, une pause s'impose pour qu'on se repose. Vrai ? On regarde ça, si vous gardez une phrase, regardez au moins celle-là. Une pause s'impose pour qu'on se repose. Jésus a dit, et vous allez m'aider à le finir, c'est sûr, venez à moi et chargez, et je vous donnerai du repos. Ben, faut bien venir à lui quand même, hein, un moment. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vous-même. Mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. C'est une autre version que vous connaissez peut-être un peu moins. Ce matin, ton défi, c'est de prendre le fardeau avec lequel tu es entré, de le laisser ici, là, et de ne pas repartir avec. Amen. Oui, mais qui c'est qui va assurer mon quotidien ? Qui c'est qui va faire mon quotidien quand je vais m'arrêter pour chercher la face de Dieu ? Qui va s'occuper de ça ? J'ai appris en découvrant, à travers plusieurs exemples de personnes qui étaient autour de moi, qu'à chaque fois qu'on prend du temps pour Dieu, Dieu nous rachète le temps presque. Vous avez déjà vu ça ? Quand tu prends ton temps avec Dieu, ta journée, elle est différente. Tu as l'impression que tu arrives à faire des choses que tu n'aurais jamais réussi à faire. J'ai souvent cet exemple de ma maman. 8 enfants, il y a du boulot. On avait 2 machines à laver et 2 sèches-linges. On avait une pièce spéciale pour la buanderie. On avait 2 appartements qui étaient collés. Enfin, c'était du sport, vraiment. Mais je sais que ma maman, elle avait tous les matins son temps avec Dieu. Il ne fallait pas la déranger. Elle n'était pas meilleure qu'une autre. Elle a ses défauts comme tout le monde. Elle a ses galères comme tout le monde. Mais elle a priorisé. Et je sais ici qu'il y a des hommes et des femmes, vous prenez votre temps avec Dieu tous les matins. Ou tous les soirs, peu importe. C'est pas la plage horaire qui importe. C'est la relation, toujours. Mais sache que quand tu fais ça, tu gagnes ta journée. Tu priorises, tu mets Dieu au centre. Dieu va s'occuper de ton quotidien, je te l'assure. Alors c'est pas lui qui va faire ta machine à laver, mais c'est lui qui va t'accompagner pour donner les forces pour la faire. Marie s'assoit, elle se pose, elle veut juste entendre les paroles de Dieu. Et justement, c'est ça mon point suivant. Marie, elle décide un moment d'écouter. Vous savez pourquoi on a 2 oreilles et 1 bouche ? Pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Bon, je ne sais pas si biologiquement ça se tient, mais je trouve que ça se tient bien dans notre logique, n'est-ce pas ? On parle beaucoup quand même. On a tendance à parler. Même quand on est dans notre temps de prière, on parle beaucoup. Mais notre vrai défi, c'est d'apprendre à écouter. Marie va relever un gros défi, celui d'oser même dire non. Celui de dire non aux sollicitations, celui de dire non à ce qui se passe autour. Moi, j'ai un vrai problème dans ma vie, je vous le dis, les amis. J'arrive pas à dire non. Demandez à ma femme. Je suis trop gentil, je dis oui tout le temps. Sauf que là, ces derniers temps, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non, pourquoi ? Parce qu'il est urgent de prendre soin de soi. Comment on prend soin de soi ? Dans notre relation avec Dieu. Et c'est pas de l'égoïsme. Quand tu prends soin de soi, de toi, dans ta relation avec Dieu, tu prends soin de ton intérieur et tu es capable de faire la suite. C'est urgent de prendre soin de soi. On est dans une société où on va dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais. Marie a osé dire non aux sollicitations. À tous nos ados, elle a osé bloquer leur téléphone. Ah non, pas couper mon téléphone. Mais si, c'est pas grave. Si Dieu veut t'appeler, il ne t'appellera pas par téléphone de toute façon. J'ai rien contre les téléphones, hein. Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus ? J'ai souvent cherché ça. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui importe le plus à Jésus ? Eh bien, on le trouve dans Marc, chapitre 12, verset 28. Pour moi, c'est un verset clé de la vie chrétienne. Marc 12, 28. Et c'est un des spécialistes de la loi qui va venir voir Jésus. C'est quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît les textes bibliques et qui sait pourquoi il va parler. Il va discuter avec Jésus et il demande quel est le commandement le plus important de tous. Donc, bah voilà, on va connaître le premier de tout le commandement. Et Jésus répondit : voici le commandement, le premier. C'est quoi le premier ? Écoute. Écoute. Il y a tout le reste, hein ? On va le lire après. Hein. Écoute. Écoute. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu peux mettre la suite. Je ne sais pas qui c'est qui a la technique, mais merci beaucoup. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et encore un petit peu après. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est une question uniquement de relation ici. Pas de faire, mais de relation. J'arrive à la conclusion. Marie a choisi la bonne part et personne ne la lui enlèvera. C'est-à-dire que quand même tu vas choisir la bonne part, même Jésus va te défendre face à tous ceux qui sont autour de toi. Jésus va défendre Marie devant l'ensemble de la maison. Parce qu'il y a Marthe qui parle, mais on ne sait pas ce que les autres y pensent tout autour. Mais Jésus prend la défense de Marie. Marie a choisi la bonne part. Et ça m'amène à un point qui est hyper important. Choisir la bonne part est un choix. Dieu ne va jamais te l'imposer. C'est pas Dieu qui va te prendre, te mettre dans ta chambre et qui va te dire « maintenant on est ensemble ». Non, 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 non. C'est toi. C'est toi qui choisis de le faire. C'est nous qui choisissons. Ensemble, on doit choisir. Et je crois que c'est le rôle de l'Église de dire « je choisis ce matin de prendre du temps dans cette relation que Dieu veut m'amener à vivre. » Quand tu fais le choix de prendre soin de toi, pourquoi je dis ça à plusieurs reprises, prendre soin de soi? Souvent, on se dit « oui, mais on n'est pas dans le bien-être, on n'est pas dans ces... » Mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa relation avec Dieu. Quand tu prends soin de ta relation avec Dieu, tu prends soin de toi. Au même titre que tous les matins, vous prenez une douche et vous êtes propre. On prend soin de soi. On prend soin de soi. Et c'est important et c'est pas de l'égoïsme. Mon objectif ce matin, c'est pas de vous dire vous faites mal. Parce que je suis comme vous. Bien souvent, je suis Marthe. Mais mon objectif de ce matin, c'est de dire « Ok, je suis venu dans ce culte fatigué. Ma vie est chargée. Ma vie est... Vraiment, j'ai plein de choses à faire. Ce matin, je veux choisir ma relation au profit du résultat. » Et je crois qu'en faisant ça, Dieu s'occupe du reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. La relation, retenez bien ça, s'il vous plaît. La relation sera toujours plus importante que le résultat. C'est ce que l'histoire de Marthe et Marie nous apporte. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier ensemble ? J'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux un instant, si la pianiste, elle veut bien remonter, si ça ne vous dérange pas. Ou si, et on peut peut-être prendre un petit temps, simplement pour mettre à plat notre situation, nos vies ce matin. Ici, on est tous Marthe ou Marie. Et ce matin, peut-être Dieu t'appelle à un temps de repos. Un temps où tu vas juste souffler de tout ce que tu portes au quotidien. Un temps où Dieu va te dire, ok, arrête maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce temps. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Eh bien, ce matin, Seigneur, on veut privilégier la relation. On a besoin d'entendre le cœur du Père. Tu as besoin d'entendre simplement ce doux murmure qui vient te rappeler une chose, je t'aime. Une chose, l'amour de Dieu n'est pas arrêté, n'est pas limité. Tu as besoin d'entendre une chose, le cœur du Père, qui te rappelle combien il t'aime, combien il a donné sa vie pour toi. Et on va juste prendre ce temps, on va prendre ce matin avec toute la simplicité de ce qu'on est en train de vivre. Et si ce matin tu es venu vraiment chargé, bien je t'invite peut-être si tu le sens, si tu as à cœur de te mettre debout et dire, Seigneur, je viens ce matin. Et je te dépose mes fardeaux, mes inquiétudes, ce qui est lourd pour moi, ce que j'arrive pas à porter. Parce que je veux développer ma relation avec toi, avant tout le reste. Et on va prier ensemble, que Dieu vienne renouveler son Église, parce que je crois que Dieu en est capable. Seigneur, on est devant toi là. Tellement, juste comme Marie, on est assis à côté de toi. À l'écoute de ton cœur, à l'écoute des paroles que tu veux nous donner. On mesure, Seigneur, que parfois on est préoccupé par plein de choses et tu n'es pas en train de nous condamner. Mais tu nous ramènes simplement à cette relation tellement importante, cette relation d'amour. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Est-ce que l'église de Gap, elle peut élever la voix maintenant et dire, Seigneur, on a besoin de toi, on veut chercher ta face, entendre le cœur de Dieu. Seigneur, c'est ton cœur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. On veut rechercher le cœur. Ce matin, tu as besoin de découvrir non pas le Dieu qui te dit ce que tu dois faire ou pas faire, mais tu as besoin de découvrir le Dieu d'amour, le cœur du Père. Pendant des années, on t'a enseigné, on t'a dit voilà ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne, ce qu'il ne faut pas faire, et Dieu te dit ce matin, je ne suis pas là pour te dire ce qu'il faut faire ou pas, je suis là pour déverser ma grâce en toi et que tu redécouvres le cœur du Père, ce cœur d'amour, ce cœur de papa que tu n'as jamais connu, mais qui est en train de se révéler à toi. Cet amour qui se déverse dans ton cœur et tu dis c'est étonnant, mais c'est cet amour que Dieu veut t'amener à découvrir. Ouvre ton cœur simplement, accepte-le sans chercher à expliquer quoi que ce soit. Juste accepte cet amour du Père et tu vas voir à quel point Dieu va être capable de transformer chaque détail de ta vie, même tes relations, tes paroles, tes mots, tes pensées. Parce que l'amour du Père va impulser, va toucher chaque aspect de ta vie. C'est ce Père que tu as besoin de découvrir ce matin. Amen.